chaque fois qu'on reçoit une prédication. On aime prendre nos Bibles, et si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte avec presque tous les versets qu'on va voir ensemble. Mais on croit que cette Bible est inspirée de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la Bible est inspirée de Dieu? En fait, c'est Dieu qui nous parle. Et la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche et on croit avec le cœur, c'est accompli. C'est un principe spirituel. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et là, on aime faire cette déclaration. On aime dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir une semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais et pour éternité changé et transformé dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Woo! En Thessaloniciens, chapitre 5. Ça fait déjà plusieurs semaines, on a commencé une série dont j'ai donné le titre « Bien dans sa peau ». Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bien dans leur peau? Hein? Et moi, je crois que c'est la volonté de Dieu qu'on soit bien. Et je crois que c'est la volonté de Dieu, pas juste parce qu'il nous aime et il veut qu'on soit bien, mais il veut qu'on soit une lumière pour le monde, n'est-ce pas? Et quand les gens voient que nous sommes bien et que les choses dans notre vie vont bien et que nous avons la victoire, les gens vont poser les questions, n'est-ce pas? En fait, c'est biblique, en Pierre chapitre 3, verset 15 dit cela. Les gens vont nous demander la raison pour notre espérance. Et c'est ça que je veux. Mon désir pour l'Église fêter la vie comblée, c'est qu'on devienne une gang des victorieux, hein? Une gang de plus que vainqueurs, où les gens, oui, on va avoir des problèmes. Oui, on va avoir des défis. Oui, on va avoir des moments difficiles. On passe tous par les moments difficiles. Mais une chose que je sais, plus la bataille est grande, plus le combat est difficile, plus la victoire est grande. Amen. Et on n'a rien à craindre parce que Dieu est avec nous, il est pour nous, et le plus grand est en nous. Amen. Mais en Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, tout le monde dit esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on voit l'apôtre Paul, qui était un juif de naissance, qui était un hébreu des hébreux, il dit que le Dieu de paix, et on sait que les hébreux, même aujourd'hui en Israël, les gens vont se saluer en disant quoi? Shalom. Donc on sait qu'il parle du Dieu de shalom. Et le mot shalom veut dire pas juste tranquillité, ça veut dire vraiment rien de brisé et rien qui manque. Si on veut vraiment une bonne définition de shalom. Donc il est en train de dire que le Dieu qui fait en sorte que rien ne soit brisé dans votre vie et que rien manque dans votre vie, qu'il vous garde et qu'il fait en sorte que votre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous ayons la victoire dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps physique. Et on sait, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que dès qu'une personne confesse Jésus comme Sauveur et Seigneur, que son esprit est né de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Et je suis plus l'homme que j'étais. Hein? Comme Paul a dit, j'étais crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On sait que je suis créé selon l'image de Dieu. Et dans mon esprit, mon homme intérieur, je suis déjà parfait. Amen? Pas parfaitement mature, mais j'ai pas du péché dans mon esprit parce que je suis une nouvelle création. J'ai plus une nature pécheresse dans mon esprit. Parce que j'ai la nature divine. On a vu cela. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage à aller sur notre site web, écouter les messages ou acheter une cassette. Écoutez, sur le site web, c'est gratuit, par exemple, donc c'est plus avantageux. Mais écoutez cela et vous allez voir que vous êtes une nouvelle création et que Dieu a fait une œuvre surnaturelle dans votre cœur, dans votre esprit. Vous êtes créés à son image. Mais on sait que nous ne sommes pas juste des esprits, nous avons une âme. Et notre âme, c'est notre quoi? Notre volonté, notre intelligence, nos émotions. Le siège de nos émotions se trouve au niveau de l'âme. Et nous habitons dans un corps. Et quand je suis né de nouveau, mon esprit est changé instantanément. Mon corps n'est pas changé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont remarqué que le corps ne change pas instantanément quand on est né de nouveau? Hein? Les couleurs de vos cheveux ne changent pas. Rien qui change au niveau physique lors de la nouvelle naissance. Et en fait, la Bible nous enseigne que nos membres sont encore infectés par le péché. Et que dans mes membres, j'ai la loi du péché et de la mort qui agit et qui me pousse à faire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu que je veux faire selon mon esprit. Donc, on a ce combat, la chair dans mon corps physique qui combat contre mon esprit. Les deux sont opposés. Je ne fais pas ce que je veux faire aussi longtemps que je me laisse contrôler par mon corps. Amen? On a vu toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est que pour avoir la victoire, si je suis un être sur trois dimensions, j'ai une partie de moi qui veut faire le bien, une partie de moi qui veut faire le mal. Donc, c'est la troisième partie qui est mon âme qui va déterminer qu'est-ce que je vais faire, n'est-ce pas? Si mon âme va avec mon corps, je vais faire le mal. Mais si mon âme s'accorde avec mon esprit, je vais faire le bien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on veut parler de la prospérité au niveau de votre âme. Parce que je suis convaincu que le champ de bataille, ce matin, on a prié pour la liberté. Les gens qui ont reçu l'imposition des mains, les gens qui ont été délivrés, je crois, ce matin de certaines habitudes, de certains problèmes, de certaines blessures. Le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans votre vie et vous êtes libérés au nom de Jésus. L'onction de Dieu a coulé. Amen. Pourtant, maintenant, si vous ne faites pas quelque chose au niveau de votre âme, votre façon de penser, vous pouvez facilement retomber dans les mêmes patterns que vous aviez avant. C'est pourquoi ça prend souvent la puissance de Dieu, l'onction de Dieu pour avoir la liberté, mais ça prend la parole de Dieu pour garder la liberté. C'est mon épouse qui m'a dit ça il y a quelques années. Elle a dit, tu sais quoi? Ça prend la puissance de Dieu pour avoir la liberté, mais ça prend la parole de Dieu pour garder la liberté. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de cela. Comment vous pouvez prospérer dans votre âme afin de garder la liberté dans chaque domaine de votre vie. Ceux qui ont eu des luttes avec des mauvaises habitudes, peut-être votre corps était accroché à certaines choses. Peut-être votre âme était blessée et vous avez des patterns de pensées qui ne sont pas saines et qui mènent à la destruction. Aujourd'hui, on va voir les choses qui vont vous aider avoir la prospérité totale au niveau de votre âme. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que si vous êtes prospère dans votre âme, vous allez prospérer à tous égards. En fait, la Bible dit en 3 Jean chapitre 1, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, on voit, la volonté de Dieu, c'est que je sois prospère à tous égards. Dieu est un Dieu de prospérité. Et le mot prospérité, ça ne veut pas dire finance, forcément, ça veut dire vraiment prospérité. Je regardais ce mot, même dans le grec, cette semaine, j'ai étudié, j'ai médité cela. Et ça veut dire littéralement de bien aller, d'aller bien. Dieu veut que les choses aillent bien dans votre vie. Être prospère, c'est d'avoir une vie où les choses vont bien. Amen. Et c'est comme, ça donne même l'image de quelqu'un qui fait un voyage. Il faut bien aller pendant tout le voyage. Vous savez que le succès, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et il y a trop de gens qui pensent, oh, j'ai besoin de la victoire, et ils sont tellement fixés sur une destination qu'ils manquent la joie de l'Éternel sur la route. Amen. Et ils ne laissent pas le Seigneur agir à tous les jours, au fur et à mesure dans leur vie, pour qu'ils soient prospères à tous les jours. Et c'est pourquoi il y a des gens qui pensent, « Oh, dès que j'ai un emploi, ça va bien aller dans ma vie. » Ou « Dès que j'ai une épouse, ça va bien aller. » « Dès que j'ai un mari, ça va bien aller. » Ou « Dès que j'achète une auto, dès que je loue un appartement ou j'achète une maison, là, les choses vont bien aller, je vais être prospère. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Pour être prospère, pour que les choses aillent bien dans votre vie, il faut d'abord prospérer, il faut que les choses aillent bien dans votre âme. Et si ça va bien dans votre âme, dans vos pensées, les autres choses vont suivre. C'est le même principe comme Claude a partagé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais si vous êtes malade dans votre âme, vous allez être malade dans votre corps. Vous allez avoir des problèmes au niveau de vos finances. Vous allez avoir des problèmes au niveau de votre vie familiale. Mais si ça va bien dans votre âme, si vous êtes prospère dans votre âme, et votre âme va vraiment bien, là, vous allez avoir l'occasion de voir la main de Dieu agir dans vos finances, dans votre famille, dans votre santé. Vous savez que la plupart des maladies physiques sont reliées aux problèmes émotionnels. Ça, c'est en fait, n'est-ce pas? Et même, j'ai vu une fois, c'est pas un chrétien qui a préparé cela, mais c'est un médecin qui a préparé une liste des maladies. Et ils disent qu'une personne avec un tel tempérament ou avec une telle façon de penser a une tendance à avoir une telle maladie. Mais il y a certaines régions du corps qui sont affectées. Le cancer dans le côlon est relié à une certaine façon de penser souvent. Hein? Les tumeurs au cerveau, il y a certaines personnes, ils voient un pattern. Ces gens-là, ils ont un tel tempérament ou une tendance à penser d'une telle façon. Être négatif, des fois pas pardonner. Toutes ces choses sont liées ensemble. Quand on parle des maladies psychosomatiques, n'est-ce pas? C'est relié au psyché qui est notre âme. Donc notre âme est importante et c'est là où la victoire est gagnée ou perdue. C'est au niveau de notre âme et nos pensées. Mais vous savez quoi? Le Seigneur, il s'intéresse à notre âme et il s'intéresse à nos pensées. En fait, le Seigneur sait tout ce que tu penses. En Chronique 28:9 dit que l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Tout ce que vous êtes en train de penser maintenant, moi je ne sais pas ce que vous pensez. Ça serait intéressant, n'est-ce pas, si tout le monde avait un écran sous le front. Aimeriez-vous ça, avoir un écran sous le front? Et on pourrait voir exactement qu'est-ce qui se passe? Non, hein? Qu'est-ce que je verrais aujourd'hui? J'aime Jésus. Hein? Ou quand est-ce que le pasteur va arrêter de parler? Ou... est-ce que le pasteur me vise dans sa prédication? Je sais pas combien, je dis cela juste pour vous mettre à l'aise parce que je sais pas combien de fois les personnes viennent. Est-ce que tu me visais? Non, non, je prêchais la parole. Si ça touche à votre vie, tant mieux. Si le soulier vous va, mets-le. Amen. Mais vois-tu, on n'a pas un moyen de voir qu'est-ce que les autres pensent, mais le Seigneur, il n'a pas besoin d'écran. Il voit, il sonde, il comprend. Il comprend pas juste qu'est-ce que vous pensez, mais pourquoi vous le pensez. Amen. En fait, Psaume 139, 2 dit, « Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu est saint, il s'intéresse à qu'est-ce qu'on pense. En fait, quand il a envoyé le déluge sur la terre, dans le temps de Noé, vous savez que qu'est-ce qu'il a dit? Que la pensée de l'homme était continuellement vers le mal, n'est-ce pas? Il voyait les pensées des hommes. Et si vous et moi, nous allons prospérer dans notre âme, il y a plusieurs choses. Premièrement, il faut comprendre la puissance de nos pensées. Est-ce que vous êtes convaincu, vous, que ce que vous pensez est important? Il y a une puissance dans vos pensées. On ne parle pas de nouvel âge ici. On parle de la parole de Dieu. C'est juste un principe biblique. Et il y a des versets bibliques qui nous disent la même chose. Parce que qu'est-ce que vous pensez en fait? Colossiens 1, 21 dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. » Tout le monde dit « pensées ». On était ennemis de Dieu par nos pensées. Qu'est-ce qu'on a pensé avant nous a rendu ennemis avec Dieu? et par vos mauvaises œuvres, et il vous a maintenant réconcilié. N'est-ce pas bon que nous sommes réconciliés avec Dieu maintenant? Dieu n'est pas fâché avec nous, il nous aime. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Alléluia! Il habite en nous. Si vous êtes né de nouveau, il habite en vous. Vous êtes une nouvelle création. Mais maintenant, il faut changer notre façon de penser pour penser comme un vrai enfant de Dieu. Parce que vous savez que vos pensées vont déterminer votre image de qui vous êtes. Proverbe 23, 7. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Tel qu'un homme pense dans son âme, tel il est. Si vous pensez que vous êtes un bon à rien, vous allez agir comme un bon à rien. Si vous pensez que vous êtes un pécheur, écoutez-moi, vraiment attentivement là. Si vous pensez dans votre âme que je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Moi, j'ai écouté ça depuis des années. J'ai cru cela même pour un certain temps. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas un pécheur sauvé par la grâce. J'étais un pécheur. J'étais mort dans mes péchés. J'étais sauvé par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. Mais parce que je suis sauvé par la grâce, je suis maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et je ne me vante pas. J'étais pécheur. J'ai mérité l'enfer. Si le Seigneur m'aurait donné qu'est-ce que j'ai mérité, je pense qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment que le Seigneur donne qu'est-ce qu'on a mérité? Non, c'est par sa grâce, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. C'est pas par les œuvres. C'est Jésus qui est digne de gloire. C'est seulement lui. Quand on arrive au ciel, on va prendre nos couronnes et qu'est-ce qu'on va faire avec? On va les jeter aux pieds de Jésus en disant, c'est toi qui es digne. C'est pas ma justice, c'est sa justice, mais il m'a donné sa justice. C'est un don gratuit et je suis la justice de Dieu en Jésus. Vois-tu, c'est important parce que si je pense, je suis un pécheur sauvé par la grâce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agir comme un pécheur. Et on va dire, c'est naturel, c'est normal, je suis pécheur. C'est pas normal pour un homme qui est juste d'agir comme un pécheur. Lisez vos Bibles. Lisez l'évangile, la première épître de Jean et vous allez voir. Ceux qui pratiquent la justice et ceux qui pratiquent le péché, c'est clair qu'est-ce que Jean dit là-dedans, n'est-ce pas? Donc nous sommes les enfants de Dieu et il faut que je pense comme un enfant de Dieu. Une personne qui pense, je suis accroché à une telle chose. C'est bon d'arriver à la place où on peut admettre et avouer, j'ai un problème. Je suis accro à telle chose, mais Seigneur, merci pour la délivrance. Et une fois qu'on a la délivrance, on a besoin d'arrêter à penser, je suis en accro. Non, j'étais en accro, le Seigneur m'a délivré. Est-ce que j'ai toujours besoin de faire attention? Oui. Quelqu'un qui a eu des problèmes avec la boisson, c'est pas sage d'aller fréquenter des places où la boisson est à votre portée, vous êtes d'accord? Ou de fréquenter des gens qui sont en train de faire certaines choses qui étaient un problème pour vous. Mais pensez pas pourtant que vous êtes en accro, vous êtes un homme libre. Tout le monde dit, je suis libre. Et si vous pensez dans votre âme, je suis libre, vous allez être libre. Alléluia. Donc, vos pensées vont déterminer votre image. Vos pensées vont déterminer aussi les paroles qui vont sortir de votre bouche. Proverbe 15, 26 dit, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Donc, on voit que le lien entre les pensées et les paroles. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables. C'est-à-dire que si j'ai des pensées agréables, je vais avoir des paroles agréables aussi. Si j'ai des pensées qui sont mauvaises, je vais avoir des paroles qui sont mauvaises aussi. Amen? Il faut qu'on sache que qu'est-ce qu'on pense va déterminer qu'est-ce qu'on dit, et qu'est-ce qu'on dit va déterminer la direction de notre vie, selon Jacques chapitre 3. Ça, c'est tout un autre message. Mais votre image, vos paroles et vos actions sont déterminés par vos pensées. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés comment? Dans leurs pensées. et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Et plus tard, dans le même chapitre, c'est marqué verset 28, « Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes. » Pourquoi est-ce qu'ils ont commis les choses indignes? C'est parce qu'ils étaient tout d'abord égarés dans leurs pensées. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une personne qui a commis l'adultère sans penser à ça. Personne qui se réveille un matin et dit « Qu'est-ce que je fais ici? » Hein? En quelque part, la personne a eu une idée, une pensée. Et cette pensée a été nourrie, cette pensée a été autorisée à rester, et cette pensée est devenue une imagination. La personne avait peut-être un petit film qui roulait dans sa tête de qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait faire. Peut-être que c'était un clip vidéo très court, mais c'était quand même là. Et la personne a finalement agi. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça marche dans le sens, dans le mauvais sens, mais ça marche dans le côté positif aussi. Vous voulez faire des bonnes choses, pensez aux bonnes choses. Vous voulez faire du bien à votre entourage, pensez aux bonnes choses. Vous voulez rester avec votre épouse, c'est comme Tanya et moi, on a une chose, on en parle de temps en temps, on va juste dire, hey, tu sais quoi, ça va être vraiment de fun un jour. La journée, on va être capable de tenir nos petits-enfants. C'est pas que nous avons hâte d'arriver là. On est trop jeunes pour ça aujourd'hui. Mais quand même, il y a une pensée qui vient. C'est comme, ça va être bon. On a une vision du futur. Et cette vision va faire quelque chose qui va influencer nos actions dans notre vie de couple. C'est, on ne veut rien faire qui peut défaire ou mettre à risque cette vision de tenir nos petits-enfants ensemble. Je ne veux pas avoir un autre monsieur qui vit avec elle en tenant mes petits-enfants. Je veux que ce soit moi et elle ensemble. Vois-tu? Et ça, c'est pourquoi je sais qu'on va arriver là, parce qu'on nourrit ces genres de pensées. Et de temps en temps, on va parler de ces choses. Je le pense, je le parle et j'agis. Amen. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Donc, comprenez la puissance de vos pensées. Puis, deuxièmement, prenez la responsabilité de contrôler vos pensées. Vous savez que vous avez le pouvoir de contrôler qu'est-ce qui se passe entre vos oreilles? Peut-être pas avec votre propre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, vous êtes capable de contrôler vos pensées. Non, laisse-moi juste vous donner l'autre côté. Vous ne pouvez pas contrôler chaque chose qui se présente devant vous. Il y a des fois des pensées qui vont venir et il faut reconnaître qu'il y a plusieurs sources de nos pensées. Des fois, nos pensées viennent de l'intérieur, de nous-mêmes. Des fois, ça peut venir de Dieu. Le Saint-Esprit peut parler, il peut mettre une pensée dans notre esprit ou même dans notre âme. Et des fois, il y a aussi des autres êtres spirituels qui peuvent chuchoter dans notre oreille. Il y a des forces diaboliques, il y a des démons, et eux autres aussi peuvent semer les pensées dans votre âme à l'occasion. Vous êtes d'accord? Donc, c'est pourquoi il ne faut pas être culpabilisé si jamais une mauvaise pensée cogne à la porte. Vous ne pouvez pas contrôler qui va sonner à la porte de votre maison, n'est-ce pas vrai? Si n'importe qui veut aller, à moins que vous avez un chien de garde, un Rottweiler ou je ne sais pas, une clôture électrique ou une chose de même autour de votre maison, vous ne pouvez pas contrôler qui va arriver, monter les marches et cogner la porte, n'est-ce pas? Mais vous avez quand même le contrôle et vous avez le droit de décider si vous allez ouvrir la porte ou non. Si vous regardez et vous voyez qu'il y a quelqu'un avec un pistolet ou un bat de baseball ou quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte. Vous êtes d'accord? Ou si vous voyez quelqu'un qui a l'air menaçant ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé. Ou si vous ouvrez la porte et la personne commence à parler et vous voyez, non, ça c'est pas le genre de personne que je veux dans ma maison, vous n'êtes pas obligé de le laisser entrer. Comme quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, n'est-ce pas? Si l'oiseau veut voler au-dessus de ma tête, il a le droit. Mais moi, je peux, j'ai le droit de l'empêcher de faire son nid dans mes cheveux. Amen. Donc, si l'oiseau arrive, si la pensée arrive, il cogne la porte de votre cœur, on va voir tantôt qu'il y a des pièces d'identité qu'il faut demander. C'est comme maintenant, surtout après le 11 septembre, c'était déjà comme ça depuis des années, mais maintenant, depuis le 11 septembre, quand on prend l'avion, laisse-moi vous dire, et dépendant la place, il y a certaines places dans le monde qui sont plus strictes que les autres, mais ils vont poser des questions. Ils veulent voir votre passeport. Ils veulent savoir quelle est votre identité, quelle nationalité, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous allez faire ici, pour combien de temps est-ce que vous allez rester. Je pense qu'on a besoin de faire la même chose avec nos pensées. Une pensée vient, on devrait poser la question, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous voulez faire pendant votre séjour dans ma tête? Des fois, pourquoi est-ce qu'on pose des questions aux gens qui sont en voyage? Parce que des fois, il y a des terroristes parmi les voyageurs, n'est-ce pas? Et les terroristes, des fois, sont habillés comme tout le monde, on ne peut pas voir à l'extérieur qu'ils sont des terroristes, mais ce sont des gens extrêmement dangereux. Et ils vont entrer dans le pays. Et peut-être ils vont rien faire pendant plusieurs mois. Tu sais que c'est ça qui s'est passé le 11 septembre. Les gens sont entrés aux États-Unis et ils étaient là pendant des années. Ils dormaient, on dit. Il y avait des cellules d'Al-Qaïda qui dormaient, qui ne faisaient rien. Sauf qu'au moment donné, c'était la journée où ils ont dit, c'est aujourd'hui, et ils ont déclenché toute l'horreur qu'ils avaient planifiée depuis longtemps. Et savez-vous que c'est la même chose dans votre tête? Des fois, il y a des choses qui veulent entrer dans votre tête, ça a l'air innocent, ça a l'air de rien, ça fait, c'est pas grave. Et vous allez laisser ces choses entrer, que ça soit à travers l'Internet, que ça soit à travers la télévision, que ça soit à travers une conversation que vous avez avec des gens, il y a des images, des idées, des pensées que vous laissez entrer, et pour tout de suite, ça fait pas de mal. Vous voyez pas le problème. Vois-tu? Pas grave. Je laissais entrer. Je regardais le site web le contenu n'était pas correct, j'étais pas chrétien, mais dans le fond, je l'ai fermé après une demi-heure, c'est pas plus grave que ça. Oui, mais ces images, ces pensées sont là, dans votre cœur, dans votre âme, et ils dorment là, peut-être pour le moment. Mais si vous ne faites pas quelque chose pour les ôter, si vous ne faites pas quelque chose pour les remplacer, tôt ou tard, ces choses vont exploser. Il y a des pensées terroristes. Et c'est sérieux. De la même façon qu'on peut avoir des mauvaises pensées, on peut avoir des bonnes pensées. Des personnes qui vont venir pour nous faire du bien. Des pensées qui vont venir pour nous faire du bien. Et des fois, on pense aux choses de la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, et on ferme la Bible, et on pense, mais tu sais, ça n'a rien fait. Comme, de côté négatif, on dit, vois-tu, ça n'a rien dérangé dans ma vie, je continue quand même. Des fois, les personnes lisent la Bible, et puis ils disent, tu vois, ça n'a rien fait. Dans le fond, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lire? Oui. Parce que ces choses sont en train de... Des fois, ces choses sont dormantes dans votre cœur, dans votre âme. Mais tôt ou tard, ils vont porter du fruit et ils vont transformer votre vie. Donc, il faut prendre la responsabilité de contrôler vos pensées. Il y a plusieurs versets que j'ai mis dans les Écritures et j'aimerais que vous preniez le temps de les lire à la maison. Mais en Proverbe 16, 30, c'est marqué, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Combien de chrétiens même vont fermer les yeux pour se livrer aux pensées négatives? Et je ne parle pas juste des choses où on va mettre l'étiquette du péché, mais je parle des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est une mauvaise pensée.
Et là, on pense, ah oh oui, il ne faut pas regarder la pornographie, il ne faut pas entendre les gros mots, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais savez-vous, il y a d'autres choses qui sont plus subtiles, mais qui sont aussi dangereuses. Hein? Des choses que les gens disent à propos des autres, les critiques que les gens peuvent apporter. Et si on pense, les pensées critiques par rapport à nos conjoints, nos frères, ou quoi que ce soit, c'est dangereux, n'est-ce pas? Il ne faut pas se livrer à ces mauvaises pensées, il faut faire le contraire. En fait, voici la pièce d'identité et le critère qu'il faut avoir pour laisser entrer une pensée ou pour nourrir une pensée dans notre vie. C'est Philippiens chapitre 6, 4, versets 6 à 8. C'est dans vos notes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions. Et la paix, le shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez que le shalom, je sais que ici c'est écrit en grec, mais Paul a été en hébreu. Je suis sûr qu'il pensait, quand il disait, parlait de la paix, qu'il pensait au shalom. Voulez-vous qu'il n'y ait rien qu'il soit rien de brisé, rien qui manque dans votre vie? Ici, au reste, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout le monde dit vrai, tout ce qui est honorable, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Wow! Ça veut dire que j'ai le contrôle. Dieu ne va jamais me demander à faire quelque chose que je ne peux pas faire. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et si la Bible dit ici, que ces choses-là, que ça soit la critère pour toutes vos pensées, j'ai le contrôle. J'ai la capacité de contrôler mes pensées, n'est-ce pas? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, c'est un verset clé. Alléluia. Sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde, et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière de toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Est-ce que vous voyez? On a ici trois éléments qui sont mentionnés. Dans le second, je crois que c'est mentionné les pensées, les imaginations et les forteresses. Les armes que Dieu nous a données sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Que ce soit une forteresse d'une mauvaise habitude, une blessure émotionnelle ou quoi que ce soit, un péché qui vous lie, Dieu vous a donné une puissance pour renverser les forteresses. Et toutes les imaginations et de prendre chaque pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais. Quand on est allé prêcher en France le mois passé, on est arrivé à l'aéroport et puis on a vu les gendarmes arriver avec un monsieur avec les mains liées et l'amener dans un bureau d'immigration. De toute évidence, il n'avait pas la critère pour entrer en France. De toute évidence, ils ont dit, non, celui-là, on va le questionner davantage. Donc, il est allé comme prisonnier dans le bureau et c'était vitré, on pouvait voir. Il y avait des personnes qui préparaient à l'interroger. Vous savez, on a besoin de faire la même chose. Hein? Des pensées viennent, des pensées qui ne sont pas de Dieu, on dit non. On demande la critère, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est honorable? Sinon, OK! Vous êtes sous arrestation. Suivez-moi, je vais vous accompagner à la porte. plus le droit de rester là. Amen. Il faut qu'on, en certains moments, on est dans une guerre, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Ma tête est précieuse à Dieu. Mon âme, mes pensées sont importantes. Et vos pensées sont importantes aussi, il faut les protéger. Prenez le contrôle de vos pensées. Amen. Puis numéro 3, assurez que vos pensées sont conformes à celles de Dieu. C'est pas juste, c'est pas assez d'accompagner les mauvaises pensées et leur montrer la porte. Si tout ce que vous faites, c'est dans le sens négatif, vous résistez les mauvaises pensées, vous allez perdre le combat. Mais si à place de juste résister le mal, c'est quoi la meilleure chose à faire pour chasser les ténèbres? On ouvre la lumière, n'est-ce pas? Et les ténèbres vont disparaître tout de suite. La meilleure chose à faire si vous avez une lutte avec les mauvaises pensées, c'est de remplacer les mauvaises pensées avec des bonnes pensées, pas n'importe quelle pensée, mais les pensées de Dieu. Les pensées divines. Et savez-vous que vous êtes appelés à penser comme Dieu pense? Ça crée des genoux. Il y a des gens qui entendent les personnes parler de même, que Dieu veut qu'on pense comme lui, comme il pense. Ils vont dire, « Oh, mais la Bible dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. » Oui, absolument. C'est pourquoi il faut qu'on pense comme lui. Regardons le verset. En fait, en Ésaïe 55, c'est la deuxième verset sur numéro 3, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. » Donc, Dieu dit à nous d'abandonner nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur veut qu'on soit sans dessein? J'ai pas de pensée. Le Seigneur m'a demandé d'abandonner mes pensées. Non. Et l'homme d'iniquité, il doit abandonner ses pensées. Pourquoi? Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, tout ce que Dieu est en train de dire, c'est d'abandonner vos pensées humaines et commencer à penser comme Dieu pense. Comment est-ce que je peux faire cela? Regardez un bon verset qui est ici. Amos 4, 13 dit car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Wouh! Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça peut transformer votre vie. Il fait connaître aux hommes tout ce qu'ils pensent. Ce n'est pas un mystère. C'est des choses que Dieu veut révéler à moi. Il veut que j'échange mes pensées humaines pour ses pensées divines. La pensée humaine dit, si tu veux gagner dans la vie, il faut écraser tout le monde. Mais la pensée de Dieu dit, celui qui veut être grand doit devenir le serviteur de tous. La pensée humaine dit, si tu veux avoir plus, il faut prendre plus. La pensée de Dieu dit, si tu veux avoir plus, il faut donner plus. La pensée humaine dit, si tu veux avoir la vie, il faut garder votre vie, protéger votre vie. Mais Jésus a révélé la pensée de Dieu en disant que celui qui veut conserver sa vie va la perdre, mais celui qui perd sa vie pour lui, il va la trouver. Tu comprends? On fait un échange. Et je commence à penser comme Dieu pense. Matthieu 16, 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et on a besoin d'adopter les pensées de Dieu. En Corinthiens 2, 16 dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. » Tout le monde dit, « Nous avons la pensée du Christ. » Wouh! Comment est-ce qu'on peut avoir la pensée du Christ? C'est pourquoi la Bible dit, Romains 12, « Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés. » Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Mon âme a besoin d'être renouvelée. Mon esprit est régénéré. Mon âme doit être renouvelée. Comment est-ce que je fais cela? On va finir avec ces deux versets-là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La clé de votre victoire dans votre âme, c'est ici, dans ce livre. Amen? Parce que ce livre contient les pensées que Dieu a révélées à l'homme. Et si vous prenez le temps de méditer ce livre et de recevoir, pas juste le livre, vous savez que le livre, je peux vous montrer, le livre est déchiré, est pas mal abîmé. Mais la parole qui est contenue dans le livre est établie pour éternité dans les cieux. La parole est éternelle, plus réelle, plus sûre, plus solide que mes émotions, que mes situations, que mes circonstances. Mes circonstances, mes émotions vont changer, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Donc, c'est pourquoi Jacques 1, 21 dit, on va finir avec ce verset, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, ou on peut dire avec humilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos quoi? Et qui peut sauver vos âmes. C'est une parole qui est adressée aux chrétiens nés de nouveau, n'est-ce pas? Jacques ne parle pas aux païens, il ne parle pas aux non-croyants, il parle aux chrétiens et il dit ici que la parole que vous allez recevoir avec douceur peut sauver vos âmes, c'est-à-dire que les âmes de ces personnes n'étaient pas encore sauvées. Et le mot « sauver » ne veut pas juste dire « épargner de l'enfer ». Sauver, c'est le mot qui vient de sotérieur, sozo, et ça comprend plusieurs choses. La délivrance, la raison saine, la guérison, le salut. Donc, vois-tu qu'est-ce que Jacques est en train de dire? C'est que votre âme a besoin d'apprendre à raisonner d'une manière saine. Votre âme a besoin d'être guérie. Amen? Donc, la parole vivante de Dieu que vous allez recevoir, implantée dans votre cœur, peut sauver votre âme. Vos émotions, votre intelligence et votre volonté peuvent être guéries et capables de raisonner sainement grâce à la parole de Dieu. Amen. Verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, tout le monde dit plonger les regards, la loi de la liberté, tout le monde dit la loi de la liberté, bonne nouvelle! Cette parole est là pour vous libérer. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voulez-vous être heureux dans votre activité? Bien dans sa peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être bien dans sa peau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour échanger nos pensées pour les pensées de Dieu, pour avoir une intelligence renouvelée? Pour être transformé, il faut recevoir avec humilité la parole de Dieu. Et ici, on voit que la parole est comparée à un miroir. Savez-vous que dans le miroir de la parfaite loi de la liberté, vous allez voir qui vous êtes? Ah, c'est ça que j'ai l'air. Il n'y a pas grand monde qui va quitter la maison sans se voir dans le miroir, n'est-ce pas? Des fois, il y a quelques-uns peut-être. Mais d'habitude, on veut être sûr. Hein? Parce que des fois, mes cheveux, le matin, sont très amicales. Ils se tiennent debout et ils donnent la main à tout le monde. Et ils envoient la main à tout le monde. Donc, je veux être je veux prendre le temps de me regarder dans le miroir et mettre mes cheveux à place. Être sûr que tout est correct et propre et droit. Puis je m'en vais, n'est-ce pas? Mais savez-vous, on ne devrait jamais quitter la maison sans se regarder dans le miroir spirituel. Je sais que quand j'ai écrit le cours Battu sur le roc, j'ai inclus cela. Et Donald et Alice, ils enseignent cela à Battu sur le roc. Mais vous savez, il y a trois choses qu'on fait avec le miroir. Et j'ai mis ça dans vos notes. Première chose, regardez-vous dans le miroir de la parole à tous les jours. Regardez-vous. Plongez vos regards. Ce n'est pas un petit clin d'œil. Mais on va plonger les regards dans la loi de la liberté, la parole de la liberté. Et on va voir qui je suis. Wow! Regarde ça, 2 Corinthiens 5, 17. Tournez pas, mais oh, je vois ici que je suis une nouvelle création. Ah, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on va regarder dans le miroir, puis on va dire qu'est-ce qu'on voit. On va déclarer, confesser qu'est-ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a une puissance dans qu'est-ce qu'on dit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est un principe biblique. C'est comme, tu vois, il y a des personnes des fois un peu égocentrées, ils vont se regarder dans le miroir, ils vont dire, « Ouh, je suis beau, hein? Hey, je suis quelqu'un, hein? Attention, monde, je m'en viens, hein? » Ça, c'est pas une bonne chose. Mais spirituellement parlant, on devrait faire semblable. Parce que ces personnes, ils vont se regarder, ils vont dire qu'est-ce qu'ils voient, et puis ils vont agir en conséquence. Ils vont se promener comme, « Hey, je suis vraiment quelqu'un, hein? » Regardez, spirituellement, il y a trop de chrétiens qui quittent la maison et toute la journée longue. Je suis comme pécheur, sauvé par la grâce. Oh Seigneur, donne-moi la force nécessaire de continuer jusqu'au bout. On s'amuse bien. Ils n'ont pas pris le temps de se regarder dans le miroir. Parce que s'ils auraient pris le temps de dire, « Wow, je puis tout par celui qui me fortifie. Wow, c'est marqué ici que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Ah, c'est marqué ici que je suis un plus que vainqueur. Oh, c'est marqué ici. » Et tu peux remplir le blanc. Amen. Regardez-vous dans le miroir de la parole. Déclarez qu'est-ce que vous voyez. Et agissez en conséquence. Je suis un plus que vainqueur. Peu importe qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, Dieu est avec moi, Dieu est en moi. Le plus grand est en moi. Et plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Ça marche pas si tu ne fais que regarder. Il faut voir, il faut le dire avec votre bouche. Il faut déclarer. Ça, c'est toute une autre leçon, mais il faut déclarer. Je sais qu'on a eu des personnes qui sont arrivées à cette église et quand ils entendaient que l'importance de parler, confesser la parole, c'est comme, « Ah, oh, je ne suis pas sûr, ils étaient sceptiques. » Et à certains d'eux, ils sont les plus convaincus maintenant parce qu'ils ont vu les changements. N'est-ce pas? Ça marche. Et aujourd'hui, vous avez reçu le ministère de l'Esprit, une liberté dans l'Esprit. Maintenez votre liberté. Comment? Regardez-vous dans le miroir 3-4 fois par jour si nécessaire. Déclarez qu'est-ce que vous voyez et agissez en conséquence. Pas la foi. Peut-être vous dites, « Ah, mais la parole de Dieu, je suis créé à son image, que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur, et la Bible dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. » Peut-être vous avez une lutte des fois, avec l'impatience, et vous allez avoir la difficulté à dire, « Je suis patient. » Dis-le quand même, parce que c'est vrai. Le fait, c'est que dans la chair, vous avez de la difficulté. Mais la vérité, c'est que dans ton esprit, dans ton homme intérieur, tu as la nature divine et tu es patient. La vérité va changer les faits dans votre vie. On va se lever debout. On va terminer là. Waouh, il est midi et 9. Mais moi, tu sais quoi? C'est pas de ma faute. On a commencé à... Je pense qu'on a commencé à 11h20. commençais le message à 11h20. C'est bon. En tout cas, c'était 9 minutes très importantes, n'est-ce pas? 9 minutes qui peuvent changer votre vie pour éternité. Alléluia. On va se lever debout, on va fermer les yeux, on va prier ce matin. Est-ce que vous êtes content d'être venu à l'église? Alors, dernier verset qu'on a lu, soyez pas les auditeurs oublieux, mais mettez en pratique la parole. Si vous ne prenez pas le temps de prendre votre Bible et de vous regarder dans le miroir, si vous ne commencez pas à dire qu'est-ce que vous voyez et d'agir en conséquence, votre vie ne serait pas transformée. Mais si vous le faites, et je crois que vous allez le faire, vous serez heureux dans toute votre activité. Vous serez bien dans votre peau. Père, au nom de Jésus, on te remercie pour ta parole ce matin qui est vraie, qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je serai son sensible. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Il veut vous encourager aujourd'hui. Aujourd'hui, la hache a été mise à la racine. Et la racine de vos problèmes a été coupée pour beaucoup de vous aujourd'hui. Il y avait une action de l'Esprit qui a coupé des racines. Mais maintenant, le Seigneur, je ressens juste vraiment la compassion de Dieu ici aujourd'hui. La compassion de Dieu. L'amour de Dieu. La tendresse de notre Père. Dieu est pour vous. Il n'est pas contre vous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une victoire qui vous appartient, que vous avez déjà déclencher, mais que vous allez maintenant entretenir avec la puissance de sa parole. Être né de nouveau, c'est une chose qu'on peut faire et on peut recevoir, et dans un clin d'œil, on est changé, transformé, régénéré. Renouveler l'intelligence, c'est quand même un processus. Une chose qu'on fait une fois, mais c'est un voyage. On va prospérer, on va bien aller. Les choses vont bien aller pendant tout le voyage de notre cheminement. Parce que nous allons appliquer la parole tout au long de notre voyage. À partir d'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, prenez une décision de qualité de méditer la parole, déclarer la parole et agir selon la parole. Prenez cette décision. Prenez vos Bibles. Méditez. Déclarez. Agissez. Au nom de Jésus. Avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir si par chance, à tous les dimanches matin, on donne une invitation au cas où qu'il y a une personne ici présente qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, pour nos péchés. Jésus était enterré, mais 3 jours après, l'Esprit de Dieu l'a ramené d'entre les morts. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Et Jésus-Christ de Nazareth est assis sur le trône de Dieu à la droite du Père aujourd'hui même. Et Jésus regarde aujourd'hui, il voit dans ton cœur, il voit dans tes pensées, il sait exactement qu'est-ce que tu as vécu, toutes les blessures, toutes les joies et toutes les peines. Et Jésus sait que le Père a planifié les bonnes choses pour toi avant la fondation du monde. Et si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, comme votre Seigneur personnel, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sera né de nouveau. S'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin. Je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. J'ai besoin d'être né de nouveau aujourd'hui. Si je lève la main, est-ce qu'il y a quelqu'un? Sache peu que tout le monde ici est déjà né de nouveau. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Quittez pas aujourd'hui sans avoir donné votre vie à Jésus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Alléluia. Une autre chose, peut-être vous êtes ici, vous dites, mais oui, je suis né de nouveau, mais moi, je n'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue, comme la Bible dit en Actes 2, 4. C'est une chose importante, parce que comme on a dit la semaine passée, ou la semaine avant, quand on prie dans l'esprit, quand on prie en langue, notre esprit est en prière. C'est une façon pour toi d'être édifié et chargé avec la présence de Dieu. Ça va vous aider à avoir une vie victorieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, oui, j'ai besoin de cela. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue. Vous avez la main. Ce n'est pas tous les jours qu'on donne cette invitation. Peut-être tout le monde ici l'a déjà reçu, je ne sais pas, mais levez la main. Il ne manquait pas cette occasion. Alléluia. Sinon, on va faire cette déclaration ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ton œuvre dans ma vie. Tu as commencé une bonne œuvre. C'est toi qui vas rendre cette œuvre parfaite. Merci, Seigneur, pour ta parole vivante que je vais recevoir avec humilité, avec douceur, car cette parole va sauver mon âme, mon intelligence, mes émotions, ma volonté. Merci, Seigneur, pour une raison saine et les pensées pures qui vont me donner la victoire tous les jours de ma vie. Je vais plonger mes regards dans la loi de la liberté. Je vais déclarer qu'est-ce que je vois. Et je vais agir en conséquence. Au nom de Jésus. Amen. Amen.